Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désire maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires et succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je reçois mon collègue Olivier pour démystifier dans un langage simple les termes complexes front-end, back-end et base de données qui sont tous des mots-clés slash des concepts essentiels à maîtriser si vous voulez développer votre idée techno. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast! Olivier, qui est chez nous développeur et team lead dans l'organisation OpenMind, merci d'être avec nous cette semaine. Comment vas-tu, Olivier?
Ça va très bien. Puis toi, Joe?
Ça va super bien. Vraiment content de pouvoir enregistrer ça avec toi aujourd'hui, Olivier. Tu es un bon vivant dans notre organisation. Tu as une bonne capacité de vulgarisation. Premier podcast qu'on fait ensemble aujourd'hui. Toujours un petit stress sur le premier podcast. Mon rôle va être de te mettre à l'aise pour bien vulgariser le sujet, mais je suis convaincu qu'on va arriver avec un bon résultat à la fin. Donc, on parle aujourd'hui de démystifier les termes front-end, back-end, BD, qui est base de données. C'est beaucoup du chinois pour autant les prospects que des gens qui travaillent avec nous en continu, puis même, je dirais, des gens dans l'organisation chez OpenMind, un petit peu partout. C'est des thèmes parfois qui sont mal interprétés et on trouvait tellement important de démystifier ces termes-là pour être capable de bien collaborer avec les gens qui font des développements logiciels. Fait qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à, tu sais quoi, la différence entre du front-end, du back-end, une base de données, de la BD, tout le reste. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça. Premièrement, on va vous donner une analogie qui est très simplifiée. On va comparer ça à le monde de la restauration. Donc, première chose qu'on va faire, on va ensuite vraiment rentrer dans chacun de ces trois composants-là pour vous dire c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi les technologies qu'on utilise à travers tout ça et les technologies que vous allez peut-être entendre au marché. Mais on va également vous amener sur quels sont les spécialistes requis pour être capable de livrer en qualité dans chacune de ces trois couches applicatives-là. Dans le fond, les trois couches pour développer un SaaS, un produit numérique, un logiciel, une application, peu importe comment vous voulez le nommer. Parce que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est également attaquer le fameux mythe qu'on entend de dire « Hey, je vais engager une personne pour développer mon application ou mon logiciel ». Et ça, c'est souvent un très gros problème, une très grosse erreur qui est faite malheureusement par les gens qui connaissent un peu moins la tech parce qu'il faut tellement de spécialistes différents pour chacune de ces couches-là pour arriver en qualité. Et en attaquant à ce moment-là dans chaque strate, dans chaque sous-groupe, on va parler de c'est quoi les spécialistes pour venir expliquer à quel point c'est important d'avoir chacun de ces spécialistes-là dans les dossiers qu'on travaille. Sinon, on va arriver dans une qualité qui est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc, le fameux mythe de dire « je vais engager un développeur pour tout faire », malheureusement, aujourd'hui, ça ne peut plus exister, ou du moins, si on le fait, ça va causer une problématique. Donc, on va s'attaquer à ce mythe-là dans le podcast aujourd'hui. Donc, je termine mon long monologue initial pour introduire le sujet. Olivier, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, en analogie du restaurant, dans le fond, qu'est-ce que le back-end, qu'est-ce que le front-end, qu'est-ce que la base de données. Tu as apporté, je pense, un bel exemple qu'on peut aujourd'hui divulguer dans le podcast.
Ben oui, Joe, puis je te rassure, là, ton monologue était très bon, très bien structuré. Inquiète-toi pas, Olivier. C'était bon. Fait qu'effectivement, là, tu sais, nous, qu'on travaille avec ça à tous les jours, là, front-end, back-end, base de données, ça peut sembler trivial, là, que c'est quoi la différence, puis qu'est-ce qu'on en fait. Puis, il y a aussi le fait que dans les dernières années, ben, ça l'a évolué parce qu'avant ça, tout était regroupé dans une même application, une application qui était monolithique. Ben, au cours des dernières années, ben, on a vu l'apparition de différents types de développement On a séparé un peu tout ça là, pour être sûr qu'on a une bonne, du moins pour les besoins de la cause, là, en fait, là, vu que maintenant, il n'y a pas simplement un ordinateur qui peut se connecter à une application. Ben, on parle de différents clients comme un téléphone, ça peut être tout qu'est-ce qui est Internet des objets, ça peut être ta TV. Il y a plusieurs front-end que je vais démystifier tantôt, qui vont se connecter à un même back-end, un même serveur pour aller chercher les données.
Et je fais un petit aparté là-dessus parce que c'est tellement intéressant ce que tu mentionnes. Si on recule il y a 10, 15, 20 ans ou même au début de l'Internet des années 90, une application, là, c'était un gros bloc, tout mélangé, tout ça ensemble. Donc, c'était facile d'une personne d'être généraliste, de dire « je vais développer quelque chose ». Mais aujourd'hui, c'est tellement rendu spécialisé, c'est tellement rendu diffusé sur différents appareils qu'il faut vraiment séparer le front-end, le back-end. On va y arriver là dans la définition, mais là, c'est rendu éclaté et c'est en trois morceaux qui sont distincts. Olivier, je te relance la balle.
Oui, tout à fait. Donc, pour commencer, on va y aller avec le fameux front-end. Dans le fond, le front-end, si on fait la comparaison avec le restaurant, ben on va venir... dire que c'est tout ce qui englobe l'expérience utilisateur, tout ce qui est le bâtiment ou la salle à manger, du moins, là, c'est ce qui fait en sorte que moi, je suis client dans un restaurant, j'entre, ben, il y a plusieurs critères qui me font en sorte qu'ils vont me faire vivre une expérience, que ce soit musique, ambiance, décor, de la façon que les tables sont organisées dans le restaurant, le service, fait que tout ça vient entrer dans l'expérience utilisateur. Ben, c'est la même chose quand on va venir faire une application, là. On va avoir un UX qu'on va appeler, fait qu'une expérience utilisateur aussi. Il y a le UI pour le user interface, là. Fait que là, le UX dans une application, ce serait comment est-ce que je me rends à une résultante, là. C'est-à-dire, combien de clics je dois faire pour accomplir une action, ou que ce soit le UI, à quel point, comment est-ce que mes boutons sont designés, comment est-ce que mes tableaux sont affichés, comment est-ce que mes modals vont s'afficher, comment est-ce qu'on va venir je veux dire, décorer tout ça pour que ça soit attrayant à l'œil puis simple d'utilisation pour l'utilisateur, ben c'est un peu le même principe là, comme que je vous parlais avec le restaurant par rapport à ça.
Donc, c'est pas mal tout ce que la personne voit. Là. Quand on rentre dans le restaurant, tu mentionnes tous les éléments que le client va voir. C'est la même chose pour le développement d'une application logicielle. Le front-end, c'est ce que l'usager va voir dans le fond. C'est toute cette expérience-là. Mais exactement. Dans un restaurant, il y a des choses qui sont cachées derrière les rideaux en arrière, ce qui est fait en arrière-plan dans le fond, ce qui nous amènerait, puis je sais pas si tu veux tout de suite embarquer là-dessus, mais ce qui nous amènerait potentiellement au back-end.
Oui, tout à fait. Ben, on va aller là, puis on reviendra pour les types d'experts là, en front-end plus tard, là, mais tu sais, effectivement, parce que bon, t'as beau avoir la super belle expérience, la belle musique ou un beau menu, ben là, quand tu veux commander quelque chose, ben là, ça vient à faire une demande ou une requête au cuisinier en arrière de dire « Hey, salut, moi je veux un sandwich, puis dedans je veux mayo, tomate, laitue, jambon. » Et puis, ben là, la requête part vers la cuisine et le cuisinier dit « Ok, parfait, j'ai un client, je ne sais pas nécessairement il est où, mais ce qu'on veut, c'est lui apporter un sandwich bâti d'une certaine façon. » Ce qui fait en sorte que lui, pour avoir ses données brutes ou du moins ses aliments, ben lui, il va falloir qu'il aille dans la base de données. Fait que la base de données, on peut représenter ça comme le garde-manger qu'il y a dans la cuisine. Ce qui fait en sorte que le cuisinier va aller chercher son pain, sa laitue, sa tomate de manière brute. Puis là, après ça, il va venir faire ses tranches, faire l'assemblage de du sandwich pour pouvoir ensuite de ça l'envoyer vers le client pour que celui-ci puisse consommer le sandwich sans qu'il s'en rende compte nécessairement de qu'est-ce qui s'est passé en arrière. Lui, tout ce qu'il voulait faire de manière simple, c'était de commander un sandwich puis de manger son 10 sandwich. Donc, c'est un peu ça.
Donc, le back-end et la base de données, c'est généralement des choses que les utilisateurs ne verront pas, mais c'est toutes des choses qui sont faites derrière le rideau, donc en cuisine, en arrière-plan. Donc, la base de données, c'est les ingrédients de base pour faire la recette au final, mm-hmm. le plat ou le sandwich, comme tu mentionnais. Et là, il y a des gens qui vont processer ces aliments-là pour arriver dans un résultat fini. Donc, si on transpose ça, par exemple, dans un logiciel qui peut être un logiciel qui vous sort des tableaux de bord, ben vous rentrez dans le logiciel, vous connectez, vous voyez des interfaces. Donc, ça, c'est le front-end. Maintenant, quand vous demandez à l'interface de vous produire un rapport statistique sur les ventes de l'entreprise, sur les meilleurs vendeurs, sur ce qui a closé dans les derniers trimestres, et quand vous rentrez ces informations-là puis vous faites « produis-moi le rapport », c'est en back-end à ce moment-là qu'il y a de la programmation qui est faite, qui va aller chercher les ingrédients, donc les données dans la base de données. Et le back-end va retourner de l'information au front-end pour vous afficher visuellement ce fameux rapport-là que vous avez demandé. Et ce rapport-là, à ce moment-là, cette suite d'événements-là puis d'interactions-là se retrouve dans tous les logiciels que vous utilisez. Il y a une interface utilisateur qui est le front-end. Il y a des choses qui se passent en arrière-plan qui est le back-end. et il y a la donnée qui est la base de données, qui est la base même de n'importe quelle application, qui est dans ce cas-là un petit peu le garde-manger, comme on disait, qui est la base de données, donc les aliments bruts qui sont utilisés. Je trouve ça tellement pertinent, Olivier, comme analogie. J'espère que les gens s'y rattacheront autant que moi dans ma tête, je peux le visualiser en termes de restaurant, parce qu'on a tous eu cette expérience-là du restaurant. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va départir tout ça en trois. Et la raison, c'est que les logiciels sont rendus un peu plus matures qu'avant. Avant, il y avait des restaurants qui faisaient tout ça en même temps devant le client. Maintenant, même qu'aujourd'hui, il y a certains restaurants, c'est leur spécialité de le faire devant le client. Mais ça serait pratiquement impensable que tous les restaurants fassent ça aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas de requis que l'utilisateur voit, que c'est en train d'être fait en arrière-plan. Puis il y a des fois, c'est peut-être mieux de pas le voir aussi comment c'est fait ou comment c'est traité en arrière. C'est peut-être mieux juste de voir le résultat au bout de la ligne pour pas inquiéter ou créer de l'anxiété à l'usager de l'autre côté. Donc, même chose quand vous allez sur le site de votre banque. Là, on voit il y a beaucoup de piratage de banque présentement. Vous voulez peut-être pas voir comment que l'information est traitée en arrière. C'est peut-être moins anxiogène de juste voir le résultat au bout de la ligne. Donc, voilà pour l'analogie du restaurant. Autre chose à rajouter, Olivier, sur l'analogie avant qu'on rentre plus en détail dans chacun des trois strates, front-end, back-end et base de données?
Rien en particulier. Là. Par contre, on peut ajouter qu'on a un peu les mêmes critères de comparaison quand on vient de dire de l'appréciation, que ce soit de ton application ou d'une soirée au restaurant. T'sais, admettons, je fais une commande et puis on voit que pour avoir mon assiette, ben ça me prend 1 heure à 2 heures. Ben ça se peut que je vais me plaindre sur la lenteur au même titre que lorsque je fais sur une page web et que ça prend trop de temps à charger. Ben je vais avoir les mêmes critères, disons là, d'acceptabilité pour venir dire, hey, me semble que ça a été long. Ben tu sais, on peut voir il y a des parallèles même aussi en termes de contrôle qualité là ou de d'appréciation de l'expérience là, par rapport à ça.
Et comme on va le mentionner là, dans les prochaines minutes, il y a des spécialistes. Ça demande des personnes avec des capacités, des expertises différentes pour être bon dans ces trois sphères-là. Et ça vient s'éclater en plusieurs sous-spécialistes. Là, c'est quand même assez impressionnant pour chacune des couches. J'appelle ça des couches d'applicatifs, le front-end, back-end et la base de données. Il y a à peu près 10 de spécialistes possibles et ou requis pour être capable de sortir en qualité. On pourrait comparer ça à la construction d'un building. Si vous pensez construire un gros building commercial, industriel, solide, c'est pas vrai que c'est une seule personne qui va vous permettre de tout faire. Et là, vous dites, non, moi, je vais engager un gars de construction pour tout faire. Ce qui fait aucun sens. Puis c'est très imagé pour la construction parce que les gens savent qu'il faut un plombier, qu'il faut un électricien, qu'il faut un ingénieur, qu'il faut quelqu'un qui va faire le design, qui va s'occuper de la toiture. Parce que ça fait longtemps que ces principes-là existent et c'est régi par des lois, des règles, des normes qui proviennent des gouvernements. Et tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Maintenant, au niveau du logiciel, c'est moins réglementé, mais c'est la même chose. Il faut un plombier, il faut un électricien, il faut une personne de toiture qui est en réalité des sous-spécialités qu'on va couvrir là dans les trois strates qui vont suivre dans les prochaines minutes. Donc, Olivier, je suggère de débuter avec le côté front-end. Donc, on a déjà expliqué un petit peu c'était quoi, c'est l'interface utilisateur. Maintenant, qu'est-ce que nous, on utilise comme langage de programmation, comme coffre à outils, comme technologie qu'on peut entendre, puis on pourrait couvrir un petit peu les autres qu'on peut entendre aussi là, dans le marché à l'heure actuelle.
Oui, ben pas de problème. Là. Puis en fait, pour le front-end, là, on va partir un peu de la base là, de qu'est-ce que toutes les pages web là, peuvent traiter, là, c'est-à-dire HTML, CSS, JavaScript. Au final, là, ça revient tout à ça. Par contre, aujourd'hui, on veut plus écrire toute la HTML, le CSS et JavaScript à main. Il y a des librairies ou des frameworks qui nous permettent de accélérer le développement et qui nous permettent de faire de quoi de plus qui améliore le UX ou ton UI plus facilement. Fait que là, nous, chez OpenMind, on utilise Vue.js avec la bibliothèque de components Quasar qu'on appelle. Là, juste pour faire la distinction entre les deux, la bibliothèque de composants, comme que je dis Quasar, c'est quelque chose qui nous permet d'afficher un tableau plus rapidement, d'afficher des boutons plus rapidement, de faciliter les clics d'action. Fait que sur le bouton, je vais faire un clic, je peux référencer ce bouton-là à ma portion de code qui est le Vue.js. On est passé de Vue.js 2 à Vue.js 3 récemment là, pour la mise à jour. Ce qui fait en sorte que Vue.js, c'est le framework JavaScript là, qu'on utilise le plus, là, du moins chez OpenMind. Et puis, ça nous permet du moins de faciliter les interactions entre les différentes données qu'il y a dans une page web là, ou dans différentes pages web, là, dépendamment de comment est-ce qu'on va travailler avec, disons, le local storage ou le store là, pour les gens qui connaissent un peu plus ça. Fait que ça, c'est ce qu'on utilise chez OpenMind dans nos projets, disons, récents. Lorsqu'on part un projet from scratch, c'est deux technologies-là en front-end qu'on vient utiliser, puisque c'est quelque chose que, de un, on connaît, et de deux, on est habitué de travailler avec là, pour, du moins, la facilité là, d'utilisation. Ailleurs, là, dans les projets plus legacy qu'on a, on travaille avec les technologies Microsoft .NET, fait que c'est-à-dire le Razor pour ce cas-ci, qui est du MVC là, pour le pattern, fait que c'est modèle view et contrôleur, là, fait que on part tout comme le restaurant, là, fait que je pars de mon modèle qui est les données, fait que je pars de ces données-là, je m'en vais vers le contrôleur. Le contrôleur, c'est mon cuisinier qui va venir préparer la donnée, et ensuite de ça, j'envoie ça vers ma vue. Ma vue, c'est le front-end qui vient avec son framework de génération de vue qui est Razor. Autre que ça, pour d'autres projets legacy, on utilise des technologies PHP, c'est-à-dire Cake PHP, Laravel, avec Laravel qui vient avec son Blade, qui est l'équivalent du Razor pour la technologie Microsoft, et Cake PHP qui est du templating HTML avec du PHP là, pour certains de nos projets. Fait que ça, c'est fait le tour pour ce qu'on utilise chez OpenMind. Ailleurs, là, dans l'industrie, il y a un paquet de frameworks qui existent pour, de un, les pages pour le web et pour tout ce qui est mobile. Là. Fait que pour le web, on parle de React, Angular, Blazor, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, là, c'est encore des langages qui sont super utilisés, ou les bibliothèques. Pour ce qui est de tout ce qui est mobile, là, on parle de React natif, Flutter, Cordova, qui sont tous des langages ou des bibliothèques qui nous permettent de faire du développement mobile.
Là. Et là, on vous sort plein de noms juste pour vous puissiez comprendre qu'il existe plusieurs coffres à outils. C'est comme quelqu'un qui voulait faire la construction s'il n'a pas un marteau et son pistolet à clous, ben il sera vraiment pas efficace. Mais aujourd'hui, il existe des marteaux pneumatiques, il existe des pistolets à clous pneumatiques. Donc, tous ces termes-là, c'est des coffres à outils qui permettent de rendre les gens, les développeurs entre autres, plus efficaces, que ce soit du front-end, du back-end. On vous sort les noms, il n'y a pas de nécessité de retenir ces noms-là. Également, ces termes-là ne sont pas intemporels. Ça veut dire qu'à l'heure où ce qu'on enregistre le podcast, on vous dit ce qu'on entend, ce qu'on voit dans le marché et ce que nous, on utilise chez OpenMind et Dev2CEO. Toutefois, on se remet en question de manière très régulière. On a un comité d'amélioration continue pour voir quel langage on devrait ou quel coffre à outils on devrait tester, utiliser et adopter. Il y a toujours une balance entre la fameuse nouvelle technologie qui sort et également être stable sur une technologie existante avec un grand nombre de joueurs disponibles et connaissants de cette technologie-là. Donc, on peut toujours intégrer des nouvelles choses, mais faut aller chercher le bon équilibre pour s'assurer qu'on est productif dans les projets et qu'on est redondant également dans les projets si jamais il arrive une rotation de joueurs. Et également qu'on bâtit une connaissance commune dans l'équipe sur certains coffres à outils pour toujours en livrer plus aux clients au bout de la ligne. Donc, parfois, trop n'est pas nécessairement significatif de bien. Donc, il y a toujours un équilibre à aller chercher à travers tout ça. Un point à rajouter, Olivier, là-dessus?
Ben effectivement, là, parce que c'est facile de tomber dans la flavor of the month. Là. Ceux qui sont, du moins les développeurs qui nous écoutent, là, et qui sont abonnés à certains comptes Twitter ou des forums ou quelconque newsfeed, là, des nouveaux langages, des nouveaux frameworks, ils en sortent toutes les années, tous les mois. C'est facile de tomber dans un pattern de dire « Hey, il faut aller vers ça parce que vous allez voir, c'est malade, c'est tellement plus facile. » Et finalement, tu te rends compte qu'un an plus tard, ben le développeur qui écrit le langage, il fait plus ça, il le maintient plus. Donc, si tu as switché ton projet à cette technologie-là, ben t'es un peu... tu t'es fait poigner clôt baissé, comme qu'on dit. Fait que ça va te prendre une réécriture vers un autre langage.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Voilà, et c'est une question aussi de disponibilité de la main-d'œuvre dans ces langages-là ou dans ces coffres à outils-là. Donc souvent, mieux vaut y aller avec quelque chose un peu plus connu, supporté par soit des grands groupes de gens, soit open source ou des grandes organisations, à la Microsoft, Google, Facebook et compagnie. Donc, plusieurs de ces coffres à outils-là proviennent soit de communautés open source qui sont matures ou de grands joueurs là, qui sont derrière ces coffres à outils-là ou ces langages de programmation.
Exactement. Ouais, puis juste pour nommer, à titre d'exemple, React, c'est Facebook est derrière ça, Angular, c'est Google. Mais c'est juste pour à quel point il y a des grands joueurs qui s'occupent et qui s'assurent que leurs langages sont maintenus. Alors qu'il y a certains langages, ça peut être un loner dans son sol qui fait ça pour le plaisir. Même si ça peut être très compétent, ça risque de maintenir une technologie et de la rendre sécuritaire en tout temps. C'est un travail que ça prend un grand amont de ressources sont pour faire ça.
Donc, du côté front-end, oui, il faut des développeurs, mais il faut plus que des développeurs en termes de spécialistes. On a relevé une dizaine de spécialités requises pour être capable d'amener un projet en front-end en qualité à la fin. Et là, je vais les descendre un à un, puis n'hésite pas, Olivier, à m'interrompre dans cette descente-là des spécialités. Dans tous les côtés front-end, back-end et base de données, un, il faut un gestionnaire de projet, donc un product owner, souvent qu'on va appeler dans les projets. Donc, sans ça, généralement, on va souvent les développeurs ou les autres personnes vont être un petit peu dans le brouillard dans vraiment comment faire avancer le projet, comment bien définir les requis livrables et faire les bons suivis. Fait qu'un bon gestionnaire de projet, super important. De la même manière que si vous aviez un building à construire, ils vous font un gestionnaire de projet. C'est pas vrai qu'on lance juste des corps de métier sur le chantier. Sinon, on va se ramasser avec plein de problèmes et plein de zones grises qui n'ont pas été couvertes.
Oui, exactement. Puis juste faire la nuance entre gestionnaire de projet et product owner. Tu sais, le product owner, c'est vraiment lui qui va faire le lien entre l'équipe de développement et le client. Puis son travail numéro un, là, c'est de maximiser la valeur. Là. Fait que le temps que nous, on met le product owner, donc le PO, va s'assurer que, de un, le requis est clair, que ça va répondre aux besoins du client. Puis des fois, il va discuter avec son partenaire et puis il va dire, OK, parfait, je comprends ton besoin, mais voici la solution que nous, on propose ou du moins, ça tirait-tu si on y va de cette façon-là? Fait qu'on vient ainsi là, optimiser un peu le temps que nous, on met puis la valeur apportée au client. Là. Fait que c'est un peu une petite nuance là, sur le product owner, tandis que le gestionnaire de projet vient plus là pour s'assurer que le livrable est rencontré à la date promise.
Excellent point apporté.
Merci.
Deuxième spécialiste, on parle d'un designer d'interface utilisateur, donc en bon français, un UI designer. Et je rattache également au troisième qui est un designer d'expérience utilisateur, donc UX designer. Dans certains cas, une personne peut faire ces deux rôles-là, donc un UX UI designer ou une personne qui est spécialiste en UX UI. Généralement, c'est des gens qui vont avoir un profil psychométrique très différent des développeurs. On est plus dans le côté artistique, mais ordonné et objectif et avec beaucoup de réflexion. Ça prend beaucoup de connaissances aussi dans la psychologie de l'humain, de savoir comment il va réagir et surtout dans la réflexion de comment enlever le plus possible de clics dans les parcours clés au bout de la ligne.
Ben oui, exactement. Là. Puis, comme tu dis, c'est vraiment un profil psychométrique qui est différent. Là. Le développeur va vraiment plus être une type de personne qui va aimer travailler avec un grand lot de données ou du moins avec des algorithmes qui sont plus poussés, du moins là, pour soit accélérer les requêtes, soit pour s'assurer que l'ordonnancement logique d'une certaine séquence est respecté, là, tandis que le UX/UI, comme tu dis, c'est quelqu'un d'artistique là, qui veut s'assurer que ce soit intuitif pour l'utilisateur, que n'importe qui rentre dans son application, qui puisse s'y retrouver facilement. Là, parce qu'on s'entend que dès qu'on rentre dans une application, si c'est trop compliqué, c'est pas trop long que les gens vont faire back, là, je vais aller voir autre chose là, si c'est pas plus simple.
Effectivement. On tourne dans le côté un peu plus développement. Je nomme quatre types de postes potentiels. On a l'intégrateur web, on a le développeur front-end, le développeur full-stack et un potentiel développeur mobile si on est sur le côté des applications mobiles. Donc, développeur front-end, c'est quelqu'un qui est spécialisé du côté front-end. Développeur full-stack, c'est quelqu'un qui est capable de faire et du front-end et du back-end. Encore là, je mets une bémol là-dessus parce que des fois, quand on est bon dans tout, c'est plus difficile d'être expert dans certaines choses. Développeur mobile, c'est que ça demande certaines connaissances, des fois plus spécifiques aux appareils mobiles pour le livrable. Et l'intégrateur web, Olivier, si je dis des mauvaises choses, fais-moi signe, mais c'est la personne qui va recevoir le travail du designer, qui va le découper et l'intégrer à ce moment-là et faire une partie de la programmation pour mettre en vie à ce moment-là les interfaces visuelles que la personne plus artistique aura apportées à la table.
Ouais, c'est ça. Ça peut aussi être une personne, parce que dans le fond, dans une équipe où on aurait un UX UI designer avec un développeur JavaScript, ben, cette personne-là l'intégrateur va s'assurer de prendre ce qui a été fait par le designer, de prendre le code qui a été fait par le développeur JavaScript, puis il va venir merger ça ensemble pour être sûr que le bouton, il est pas juste beau, il est pas juste un bouton qui marche, mais tu sais, il est beau puis il marche. C'est ça qu'il vient faire.
Bon point. Ensuite, on a potentiellement un expert en performance web, parce que c'est bien beau qu'on a tout designé, qu'on a tout réfléchi, qu'on l'a programmé, qu'on l'a intégré. Mais est-ce qu'on est performant? À ce moment-là, il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans pour venir améliorer la fluidité de la performance des interfaces. Donc, ça, c'est une spécialité en soi. On a également besoin d'un testeur au niveau de l'assurance qualité pour le front-end. Donc, comme encore là, je me répète, mais c'est bien beau avoir fait tout le travail, mais pour s'assurer que la qualité, elle est là, c'est bien beau qu'il y ait un bouton qui semble être fonctionnel, mais il faut le tester dans différents cas de figure parce que c'est pas vrai que tout le monde va faire le même chemin pour aller utiliser ce bouton-là. Ça se peut que dans un de ces chemins-là, ça fonctionne pas. Donc, le testeur est super important. Et maintenant, on voit apparaître un poste qui s'appelle les spécialistes en accessibilité web. Donc, il y a maintenant certaines normes d'accessibilité que certaines applications ou sites doivent se conformer. Donc, ça, c'est une connaissance encore plus poussée qu'il faut apporter dans certains cas de projet. Quelque chose à rajouter là-dessus, Olivier?
Non, rien à rajouter. C'est très bon.
C'est complet pour ça. Donc, on vient seulement de faire le côté front-end. Et comme vous venez de voir, ça demande 10 spécialistes. Et là, on a couvert juste un tiers des couches de développement applicatif. Donc, on continue avec le côté back-end, donc le côté plus serveur, ce qui se passe en arrière de la cuisine.
Oui, tout à fait. Là, fait que dans le fond, pour faire un résumé, là, bon, on avait dit tantôt que ça va être tout ce qui est en coulisses, ça traite les demandes utilisateurs, les données, puis ça gère un peu la présentation auquel on va envoyer ça au client en avant, si on fait référence encore au restaurant. Mais en gros, là, nous, on fait chez OpenMind en termes de back-end. On tend de plus en plus vers les technologies Microsoft, encore une fois. Là, fait que là, on utilise ASP.NET Core qui nous permet de développer des API dans cette technologie-là. Comme j'ai dit tantôt, là, pour les applications plus legacy, je vais dire, c'est on utilise Razor là, qui est un monolithe. Là, fait que ça veut dire que tout est pris dans dans la même application. Autre que ça, pour les autres projets, là, il y a aussi Laravel et CakePHP, encore une fois, là, qui est plus monolithique encore. Là. C'est d'où le pourquoi que ça revient dans le back-end et le front-end. On a des applications aussi Node.js, Nest.js et en fait, quand je dis Node.js, c'est aussi avec Express, là, avec le framework. Dans les autres langages là, utilisés, là, on a tout ce qui est Django, Flask là, pour Python. Flask est le framework de Python en back-end. Il y a plusieurs autres langages qui seraient utilisés là. Là, je vais dire utiliser, je doute que ce soit tant utilisé que ça, mais selon certaines listes, bon, il y a le Ruby qui est utilisé, il va avoir Python dans un autre framework qui va être utilisé pour les applications en back-end. Et c'est pas mal ça qui en est, à moins que j'oublie quelque chose là-dessus.
Je pense que c'est complet pour ce qu'on pouvait couvrir sur cette section-là aujourd'hui. Mais maintenant, on rentre rapidement dans les possibilités de spécialistes. On en a dénombré 11. Ça va aller un petit peu plus vite parce qu'il y en a certains qu'on a couverts. Mais le premier gestionnaire de projet slash et ou product owner. On a un spécialiste DevOps. Est-ce que tu peux mentionner un petit peu, Olivier, qu'est-ce que du DevOps ou qu'est-ce qu'un spécialiste DevOps ferait dans son quotidien?
Oui, en fait, on l'a mis back-end. C'est pas tout à fait le back-end, là, mais tu sais, là, je vais prendre une autre analogie. Là, on va prendre la construction pour ça. Le spécialiste DevOps, dans la construction d'une maison, ce qu'il va venir faire, lui, il va venir s'assurer de dire, parfait, j'ai classé une prise électrique là. Fait que là, lui, il vient tout faire un peu l'architecture de ce qu'est la maison, mais moins dans le squelette, plus dans le comment est-ce que tout le monde va se communiquer ensemble. Là. Fait que tu sais, électricité, plomberie. Fait qu'il s'assure qu'il vient mettre en place des outils là, comme un CICD pour les développeurs. Le CICD, pour faire court, c'est un outil qui permet de déployer les applications plus facilement et plus rapidement, qui de manière automatique. Là, ce qui fait en sorte que j'ai moi, en tant que développeur, j'ai pas à faire un build de mon application, de compiler les fichiers, d'aller mettre ça sur un serveur FTP, puis ensuite de gérer le serveur moi-même. Les DevOps font en sorte que le CICD fonctionne, automatise mes déploiements et facilite mon travail dans tout ça.
Donc, on pourrait quasiment faire un lien que le DevOps est là pour automatiser certaines tâches. Puis si on amène ça à la construction, c'est un peu comme une domotisation dans la bâtisse. On a l'électricité, la plomberie. On pourrait simplement penser qu'il y a un capteur. S'il y a de l'eau qui fuit en quelque part, ça l'envoie l'information à couper la valve d'entrée d'eau. Donc, toute cette de relier les différents éléments ensemble au niveau de l'architecture de la maison puis d'automatiser des choses pour pouvoir faire des rénovations plus facilement ou éviter des problèmes à travers le temps, ben c'est ce qu'un spécialiste DevOps va faire à travers son travail quotidien.
Ouais, tout à fait. Puis tu sais, juste pour dire, DevOps, ça couvre vraiment large là, dans l'industrie. Puis c'est un peu un terme qui est utilisé à outrance là. Quand c'est arrivé, DevOps, c'était surtout une idéologie, disons, qui disait que le développeur doit être compétent dans tout là. Fait que le développeur partait, il prenait le besoin du partenaire, développait, faisait son QA, déployer l'application par l'humain. Fait que c'est ça l'idéologie DevOps là, à la base. Là, il y a 5 ans à peu près, là, je me suis avoir lu plusieurs articles par rapport à ça. Mais aujourd'hui, là, ça l'a bien changé, puis c'est un terme qui évolue puis différemment à la personne. Fait que là, je vous donne la définition que nous, on en a chez OpenMind. Ça peut très bien diverger là, d'une industrie à l'autre.
Donc, troisième spécialiste, administrateur de base de données. Donc, c'est la personne qui est responsable du garde-manger. Donc, de structurer le garde-manger pour s'assurer que tous les aliments vont bien rentrer à l'intérieur et surtout que c'est efficace, que ça se tient et qu'à travers le temps, on est capable d'accueillir de plus en plus de manger dans la cuisine du restaurant ou de la ligne. Donc, le plus de données possible, de manière fluide, de manière efficace, de manière bien ordonnée. Pas que ça soit long à aller chercher ces ingrédients-là quand on en a besoin en mode rapide.
Tout à fait.
Prochain spécialiste, un architecte logiciel back-end. Que ferait un architecte logiciel back-end?
On revient à la construction des maisons, là, c'est pas parce que c'est une application et qu'on ne voit pas physiquement de quoi ça a l'air sous le capot qu'il n'y a pas de structure par rapport à tout ça. Fait que l'architecte logiciel back-end, on pourrait avoir un architecte logiciel aussi front-end. Ça fait en sorte de venir structurer un peu comment est-ce qu'on va faire notre application. Parce que bon, pour démystifier un peu qu'est-ce qu'il y en a, pour toute page que vous voyez dans une application, il y a plusieurs, je vais dire centaines de fichiers qui viennent avec ça. Ce qui fait en sorte que c'est facilement, on peut se perdre facilement dans tout ça. Le fait que l'architecte vient faire en sorte que, il va venir structurer un peu le projet, comment est-ce qu'on va le monter. L'architecte va aussi s'assurer de venez voir c'est qui les third parties à qui il faut que je parle, comment est-ce que je vais communiquer avec eux, comment est-ce que je vais m'assurer que j'ai les réponses nécessaires pour ces dites third parties-là. Admettons que je travaille avec un Stripe ou un PayPal ou quelconque logiciel comptable, ben l'architecte va venir faire en sorte que, parfait, mes requêtes vont partir d'un front-end, j'envoie ça au back-end, le back-end, parfait, il va dispatcher ça à qui et ensuite, après ça, une fois qu'il a fait son dispatch, il attend la réponse et après ça, il va pouvoir traiter la donnée de son côté lui aussi. Fait que l'architecte vient un peu faire en sorte que tout le monde sait à qui il parle.
Donc, on pourrait relier ça un peu à un architecte d'une bâtisse ou d'une tour industrielle, commerciale. C'est lui qui va s'assurer que ça se tient.
Tout à fait.
Que ça ne s'écroulera pas et que ça fonctionne de la bonne manière au bout de la ligne et qui est un peu le chef d'orchestre là, de s'assurer que ça se tienne au bout de la ligne quand même.
Tout à fait.
On rentre maintenant dans les développeurs. Donc, il peut y avoir des développeurs back-end souvent catégorisés en 3 niveaux, junior, intermédiaire, senior. On va retrouver également une autre spécialité qui est développeur full-stack, quelqu'un qui peut aller du côté front-end et back-end aussi, comme on a dit précédemment là, dans le côté front-end. On a également des spécialistes en sécurité. On aurait pu le mettre également dans le front-end, cet élément. Là, mais on a besoin à ce moment-là de quelqu'un qui va venir valider que ce qui a été fait, que les bonnes pratiques ont été bien suivies et même des fois faire des tests pour s'assurer là, que la sécurité elle est à un niveau, je dirais, minimal acceptable parce qu'il y a toujours une profondeur très grande qu'on peut aller là-dedans. Il y a un minimum à couvrir dans les projets à faire en cours de route.
Ben oui, tout à fait. Là. Puis, tu sais, de notre côté, on aurait pu rentrer la portion sécurité dans DevOps, là, puisque notre équipe DevOps est très à jour sur ce qui se passe, là, s'assurer de venir valider, du moins lorsqu'on a un partenaire qui a besoin d'une certaine norme, là, comme la norme ISO, ben, s'assurer, OK, parfait, ça consiste en quoi tout ça, puis qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? S'assurer que les données sont protégées de la bonne façon, que ça soit pas accessible à n'importe qui là au niveau architectural. C'est-à-dire que côté code, les développeurs ont la responsabilité en termes de sécurité là, de pas venir exposer les données sensibles aux mauvaises personnes dans l'application. Fait que, validation des rôles là, minimalement là, pour nommer ça rapidement. Puis, bon, évidemment, être connecté dans l'application pour s'assurer que les gens connectés sont uniquement eux qui reçoivent les données.
Fantastique. Ensuite, on a les gens qui sont des testeurs back-end au niveau de l'assurance qualité, donc un peu la même chose que le front-end, mais ça demande des skills un petit peu, des connaissances un peu différentes, une expertise différente que pour le front-end. On a des ingénieurs de performance qui peuvent souvent être joués dans le rôle de spécialiste DevOps. Des spécialistes en intégration continue et livraison continue qui est souvent rattaché aux spécialistes DevOps. Et le côté ingénieur cloud aussi, dans des gros projets, il nous faut des ingénieurs qui est un petit peu... pour faire une analogie à la construction, là, si vous avez un très grand building à construire, vous avez une gestion des différents terrains que vous devez préparer pour accueillir les futures constructions puis tout ce qui s'en vient avant nous. Donc, l'ingénieur cloud est la personne qui va s'occuper de s'assurer que ça fonctionne bien au niveau des serveurs qui sont hébergés dans des centres de données. Ce qui compléterait les 11 spécialités au niveau du back-end. Maintenant, on tombe au niveau de la base de données. Des petits points à mentionner peut-être, Olivier, avant de rentrer dans les technologies qu'on utilise ou on y va directement avec les technologies?
Ben écoute, un petit résumé encore de ce qu'on a dit tantôt. Là, comme qu'on a dit, c'est tout ce qui est le garde-manger là, qu'on avait de ce côté-là. Mais tu sais, si admettons, on pousse ça d'un côté plus proche de ce qu'on fait en programmation. Mais tu sais, la base de données, on s'entend, ça va être, c'est séparé par différentes tables dans notre base de données. Les tables en telles référencent d'autres tables. Là, quand j'ai une table, mettons, on va prendre l'exemple, j'ai un client. C'est, fait que j'ai toute l'information de mon client dans cette table-là. Fait qu'une ligne représente un client. Et j'aurai une autre table qui va être, disons, les factures pour faire simple pour l'exemple d'aujourd'hui. Ben, chacune des factures vont être liées à un client pour dire, parfait, la facture X pointe vers le client 1. Et là, lorsque je venais faire ma requête, dire, lorsque le cuisinier vient faire sa requête au garde-manger, il vient faire dire, parfait, moi, je veux le client 1 et donne-moi toutes ces factures qui viennent avec. Ben, parfait. Ben, dans la base de données, ben, j'ai toutes mes factures qui référencent le client 1. Donc, je suis capable de faire une jointure, ce qu'on appelle, pour être sûr que lorsque je récupère mon client, ben, sa liste de factures vient avec. Et ensuite de ça, le back-end s'occupe de traiter les données, là, des factures pour pouvoir faire des calculs. Faire la validation, s'assurer que tout a été rempli correctement. Là. Fait que c'est le type de fonctionnalité qu'on va venir écrire là, dans l'application. Donc, pour la base de données, chez OpenMind, on utilise principalement les trois technologies suivantes. SQL Server, qui vient de Microsoft encore une fois, PostgreSQL et MariaDB, qui sont plus open source, qui nous permettent de venir faire les dites bases de données. Récemment, c'est sûr, on a passé de PostgreSQL, ben en fait, on a passé de SQL Server à PostgreSQL, étant donné plus ça nous offrait plus de flexibilité là, en termes de développement et c'était quelque chose qui nous permettait de venir implémenter plus de fonctionnalités plus facilement, disons, là, puisque PostgreSQL nous offre un large éventail d'extensions, de fonctions et de autres fonctionnalités connexes.
Je descends à ce moment-là, les experts, je vais les faire en rafale parce que c'est un peu plus technique ces postes-là et je pense pas qu'on ait une grande valeur ajoutée à les expliquer un à un, mais voici là, juste au niveau de la composante de base de données, les différents experts qui peuvent venir intervenir dans un projet. Un administrateur de base de données. Deux, un analyste de données, donc un data analyst. On peut avoir également un développeur de base de données. On peut avoir un architecte de base de données, un ingénieur de données, un data engineer, un administrateur de base de données cloud, parce que ça peut être différent qui s'est hébergé en local, un analyste en business intelligence, parce qu'on gère la donnée derrière tout ça, et un gestionnaire de données. Fait que voici rapidement les différents spécialistes qui peuvent intervenir sur des dossiers concernant les bases de données. Maintenant, je termine. Je ne sais pas si tu avais un point que tu voulais rajouter, Olivier, de ton côté. Sinon, je vais faire un petit wrap-up de ce qu'on vient de dire versus la prémisse du podcast.
Ah, je te laisse aller. C'est sûr qu'on aurait pu élaborer longtemps là, sur les bases de données, tous les concepts qui viennent, là, que ce soit les index, les performances, comment est-ce qu'on vient faire les vues ou les tables. Vraiment un large éventail de choses qu'on pourrait élaborer. Je suis pas sûr qu'on aurait effectivement une valeur à tout démystifier ça aujourd'hui. Par contre, fait que je te laisse aller avec ton wrap-up.
Avec la fin, donc ce que je veux mentionner, c'est que, comme on disait pendant le podcast, front-end, c'est ce que les gens voient. Back-end, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Base de données, c'est l'endroit où les données sont stockées. Le but du podcast aujourd'hui, c'était de vous montrer également à quel point on a besoin de plus qu'une seule personne par couche pour être capable d'arriver en qualité. J'espère que ça vous a permis d'avoir une meilleure vue sur la quantité d'experts requis. Et pour amener un projet à bien, vous avez besoin souvent de 3, 4, 5 experts, puis des fois jusqu'à 10, 15 experts dans le projet. Donc, c'est faux de dire on va engager une seule personne pour développer mon application et ça va être correct. C'est un scénario qui risque d'être catastrophe. Similaire à dire, je vais me construire un bâtiment qui est solide et je vais prendre une seule personne pour faire la plomberie, l'électricité, le chauffage, la toiture, la charpente. C'est un petit peu la même logique dans un développement logiciel. Donc voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Olivier, quelque chose à rajouter avant de terminer aujourd'hui?
Ben oui, écoute, ça a été mon premier podcast. Merci de m'avoir proposé l'offre. Ça fut bien agréable.
Bien intéressant de t'avoir accueilli, Olivier, aujourd'hui. Tu t'exprimes d'une très bonne manière, donc en espérant qu'on puisse en faire d'autres assurément devant nous. Donc à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis également bonne semaine et à bientôt. Ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement, commentaire ou même un 5 étoiles sur votre plateforme de balado préférée. Donc, en ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre quelques secondes pour le partager à quelqu'un dans votre entourage ou vous abonner ou nous laisser un commentaire ou un 5 étoiles. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.